À quelques minutes de l'avant-match entre les Sabres de Buffalo et le Canadien de Montréal, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui le président des Alouettes de Montréal. Quelques heures après le bilan de la dernière saison, une autre saison qui nous laisse, c'est le cas de le dire, ou c'est le moins qu'on puisse dire, sur notre appétit, seulement 5 victoires, 13 défaites, et des victoires, évidemment, dont on peut discuter de la valeur, comme ces victoires en fin de saison contre l'équipe B des Tiger Cats d'Hamilton ou contre une équipe de Toronto qui n'était pas des plus compétitives. Il reste que on a procédé au bilan. Inacceptable, a dit le président Patrick Boivin. Mais il n'y aura pas de changement pour autant. Patrick est avec nous en studio. Bonsoir, Patrick.
Bonsoir, Mario.
Inacceptable et pas de changement, il me semble que ça ne va pas ensemble.
Non, c'est une question de dresser une vraie ligne d'imputabilité en vue de la saison morte puis en vue de la saison prochaine.
OK, en ce sens que la barre va nécessairement être plus haute. Le DG et l'entraîneur vont jouer leur poste la saison prochaine. C'est un petit peu ça qu'on met la table pour ça, en quelque sorte.
Ben, sans mettre un fusil sur la tempe de personne non plus. L'idée n'est pas que tout le monde pense qu'ils sont sur un siège éjectable à chaque jour, mais il faut absolument que les résultats soient au poste.
Est-ce que tu es satisfait du travail de ton DG?
Moi, je suis satisfait du travail que lui a fait de concert avec Mike depuis le début de cette saison-ci et le travail qu'eux ensemble ont fait avec les joueurs aussi pour nous permettre de voir des éléments de progression en deuxième moitié de saison qui nous amène à faire le pont pour l'année prochaine.
Mike Sherman, son travail, comment peux-tu l'évaluer d'une part, et comment peux-tu évaluer le travail de Kevin Street? Parce que des fois, on se demande, quand on voit ça, ou les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises, on se demande, coudonc, est-ce que c'est un gars tellement convaincant qu'il réussit à séduire toute la haute direction puis les convaincre que finalement, ça s'en va quelque part, alors que l'affiche nous dit que ça s'en va pas vite ben vers quelque part?
Non, mais je suis d'accord avec toi que ça va pas assez rapidement vers quelque part, sauf qu'il faut prendre ça un peu en contexte. Puis le contexte qu'on fait, du moins sur lequel on se base, nous autres, c'est de prendre cette saison-ci. L'année dernière, on a fait un peu un mea culpa, puis on a décidé de faire page blanche à la suite des changements qu'on a fait dans le coaching staff. Bon, on recommençait avec un nouveau coaching staff, quasi entier, mis à part André Bolduc et un autre coach. Donc, eux avaient un apprentissage à faire. Forcément, Mike Sherman avait un apprentissage à faire aussi. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine courbe d'apprentissage dans les premiers mois, dans les premières sections de saison, si on veut. Et ce qui était important, c'est de voir qu'il y avait une certaine cohésion, une certaine progression qui se passait. Puis on l'a vu. On ne l'a pas vu assez. Ça ne s'est pas manifesté sur l'affiche autant qu'on aurait voulu. Mais la réalité, c'est qu'en deuxième moitié de saison, on était dans chacun de nos matchs, puis on était compétitif à chacun des matchs aussi.
Et donc, vous vous appuyez sur cet échantillon-là. Dans le fond, ça s'appuie sur peu de choses quand même. Puis, quelle est la valeur de ces signes de progression-là? Il faut vraiment faire confiance en l'avenir ou à ces échantillons-là, Patrick Boivin, pour se dire que ça nous indique qu'on s'en va dans la bonne direction, non?
Mais quand tu es en train de bâtir quelque chose, tu peux pas non plus te fier à une seule saison, ce qui est notre cas. Écoute, on aurait pu changer. Il y a un risque à changer aussi. Il y a une incertitude à changer. Il n'y a aucune garantie que faire un changement et de recommencer une fois de nouveau. Puis on s'entend qu'on parle des Alouettes de Montréal. Là. On parle surtout de coach, peut-être pas nécessairement de DG. Mais il y a un risque associé à ça aussi. Fait que là, on argumente une stabilité temporaire, peut-être. On verra. L'avenir va nous le dire. Mais on argumente une stabilité et une continuité pour dire on a un échantillon qui nous permettait de voir la défensive qu'on voulait connaître, la personnalité qu'on a vendue en début de saison avec les agents libres qu'on est allé chercher, et une offensive qui a réussi à se matérialiser, surtout à travers la course, mais avec un groupe de corps arrière qui ont 25 ans en moyenne, alors que les corps arrière établis dans la Ligue canadienne de football ont 30-31 ans, ils sont tous en développement. Mm-hmm. Fait que on veut voir ce développement-là au minimum, là encore, jusqu'à l'année prochaine.
Est-ce que la priorité par rapport au poste de quart arrière, considérant ce que tu viens de dire, et c'est la réalité là, que les meilleurs quart arrière ont quand même quelques années derrière la cravate, est-ce que c'est pas un peu de foncer à l'aveuglette et de mettre une pression trop lourde sur tout ce monde-là, mal protégé par une ligne offensive inadéquate, de penser que finalement, qu'on va avancer sans mettre la main sur un quart arrière qui serait potable. Et il faut le trouver, tu vas me dire, mais on était capable de donner beaucoup de joueurs dans diverses transactions. On a donné beaucoup pour Johnny Manziel. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait aucun quart arrière actuellement compétitif sur lequel il y avait moyen de mettre la main.
On a été dans des échanges pour Zach Collaros. au moment où lui a été échangé à Saskatchewan. Puis on a jugé qu'on avait des joueurs avec qui on pouvait bâtir un petit peu plus. Zach Collaros présente un risque aussi. Il est encore souffert d'une commotion cette année. Il faut que tu évalues toutes ces choses-là. Tous les autres bons carrières dans la Ligue canadienne de football sont tous attachés ou deviennent agents libres à la fin de la saison. Puis ils vont attendre, entre autres à cause de la possibilité d'un arrêt de travail là, avec la convention collective qui expire. Y a aucun de ces joueurs-là qui va se commettre, peut-être mis à part leur propre équipe avec laquelle ils sont maintenant. Et, oui, on a pris... C'est un risque calculé, sauf qu'on est en train de bâtir. Puis on est en train de bâtir une ligne offensive. On est en train de bâtir avec beaucoup de talent. Mais là encore, faut-il que ça commence à se coordonner un petit peu mieux ensemble. Ça vient avec le coaching, ça vient avec les joueurs qui jouent ensemble de façon régulière. On est en train de développer les carrières aussi. Sauf que si on regarde en vue de l'année prochaine, puis après ça, si ça continue à progresser, on regarde en vue de 2020. Là, tu commences à avoir un corps offensif, puis on peut parler de la défense plus tard, mais un corps offensif qui est stable, qui se connaît et qui fait partie de l'équation des équipes gagnantes qui ont eu beaucoup de succès. Les Alouettes de 2002, qui ont gagné une Coupe Grey, n'étaient pas les Alouettes de 2002 en 99, puis en 2000, puis en 2001. Mais cette équipe-là s'est bâtie et finalement ont eu des joueurs qui sont devenus des vétérans puis qui sont devenus des grands noms pour cette équipe-là, mais dans la Ligue canadienne de football aussi par la suite.
Tu disais qu'il y a un risque de changer parce que, dans le fond, de recommencer, mais on a eu l'impression que Kevin Sweet a changé d'idée souvent lui-même à travers son plan ou ce qui était son plan. On a souvent l'impression que, c'est comme dans Serpent et Échelle, tu sais, qu'on grimpe quelques cases, puis on descend avec le serpent. C'est-à-dire que tu prends une direction en début de saison, tu changes de direction à mi-saison ou trois quarts de la saison avec les transactions. Fait que.
Par exemple.
Par exemple, les départs, les joueurs qui ont été sacrifiés, beaucoup d'experts football parmi les nôtres qui disent que finalement, on a changé nos meilleurs joueurs. On regarde des gars, sans rentrer dans le détail, parce que là, on va rentrer dans le détail de chaque mouvement de personnel.
Non, mais prenons-en un en exemple. Parce que sinon, on reste dans les grandes déclarations.
Prends Olafoyer puis Foucault, par exemple. Deux gars qu'on a donnés qui sont deux partants sur la même ligne offensive, puis nous autres, on a des trous dans la ligne offensive qu'on essaie de rebâtir. C'est quand même étonnant de voir deux partants ailleurs, puis tu sais, deux gars...
Puis
Olafoyer, on est allé le changer. C'est là qu'on va tomber dans Foucault. Le cas par cas. Il y a toujours
non, mais
une...
C'est ça. Non, mais sinon, on reste dans des généralités. Puis ce qui est important, c'est que les gens sont capables d'avoir du contexte. Sinon, tu restes dans des généralités, puis tu restes dans des opinions, la tienne, la mienne, comme celle de n'importe quel autre expert dont tu mentionnes. Puis on peut prendre ce cas-là. Nous, on avait une évaluation sur Foucault où on savait que Philippe Gagnon, qui jouait à la même position que lui, était supérieur. On n'aurait pas pu garder David Foucault comme profondeur, comme deuxième en arrière de Philippe Gagnon. Parce qu'il avait eu son mandat dans la NFL. Lui, il se voyait comme un partant, puis c'est ce qu'il voulait. Parfait. On échange, on va chercher Olafoy qui nous a bien servi quand même pendant une saison. Puis après ça, on a décidé de se départir de Olafoy pour d'autres raisons.
Patrick Lavoie, pourquoi qu'on a des bonnes raisons de l'échanger à la fin de l'année, mais qu'on a des bonnes raisons de le ramener au début de l'année? Tu sais, je veux dire... Mais pourquoi on le ramène au début de l'année? C'est pour l'échanger une couple de mois plus tard. Tu sais, Patrick Lavoie.
Mais Patrick Lavoie a une très bonne saison pour nous autres aussi.
Ouais, ouais.
Là, on est rendu éliminé des séries éliminatoires. Mm-hmm. Il y a une équipe qui nous appelle pour nous démontrer qu'ils ont un intérêt pour lui. Puis qu'on est capable de renflouer notre banque de choix, notre repêchage, parce qu'il y a un repêchage qui est très fort cette année et très fort l'année prochaine. Puis ça va changer quoi si Patrick Lavoie finit la saison avec nous autres?
Ben, ça va changer que si tu veux construire avec des gars qui ont une bonne présence et une influence positive dans ton groupe de joueurs, tu vas les garder.
Sinon, rien qui empêche que Patrick revienne. Patrick est agent libre à la fin de la saison.
Lui avez-vous déjà négocié quelque chose avec lui? Est-ce que c'est votre volonté de le ramener?
Il faut que je fasse attention parce que là, c'est le joueur de propriété d'une autre équipe. Mais c'est tout. Je ne peux pas en dire plus, en fait, techniquement. S'il est disponible, on a un intérêt. Et ce qu'on comprend, c'est que lui aurait un intérêt aussi.
OK. Pour le reste, quand tu regardes ça, le défi numéro un depuis plusieurs années, depuis les dernières années de Jim Popp, c'est de trouver un successeur à Anthony Calvillo. Ça fait un peu jour de la marmotte d'en parler. Et donc, en deux ans de Kevis Reed, on va être juste, je parlerai pas toutes les années qui ont précédé l'arrivée de Kevis Reed, ce qu'il aura réussi à faire avec la position de carrière en se déplumant quand même beaucoup pour aller chercher ces gars-là, dont Johnny Manziel, c'est de réussir, après deux ans, à créer une compétition pour le job de carrière. Pas un gros pas en avant, là. Deux ans après, là, on a une compétition pour la job, mais on sait toujours pas c'est qui va prendre la job.
Non, mais on est à l'aise avec ça. Si tu repars, tu rebâtis. Écoute, on en a parlé tantôt. Les très bons carrières dans la Ligue, il y en a quatre. Il y en a trois, quatre. Okay? Puis ils étaient tous attachés à une équipe. On a donné une exception à Zach Collaros avant. Puis c'est encore le cas maintenant. Fait que d'aller les chercher, t'aurais probablement hypothéqué ton équipe encore plus. Fait que, quelle est l'avenue à suivre? On a essayé l'avenue d'Aaron Durant avec un agent libre. On a fait notre meilleur culpa. Ce qu'on essayait de faire, c'est de faire un pont entre pour un an, pour deux ans, avec un carrière vétéran, pendant que d'autres corps allaient se développer en arrière. Mm-hmm. Là, on y va avec un groupe qui se développe, où, comme tu le mentionnes, il va y avoir beaucoup plus de compétition. Ils vont se pousser eux-mêmes. Il y en a deux qui sont peut-être un petit peu en avance parce qu'ils ont eu plus de chances de se développer cette année, Antonio puis John Manziel. Mais ils ont 25 ans. Les corps arrière établis dans les Canadiens de football ont 30-31 ans. Donc, ils ont de la piste en avant d'eux pour pouvoir se développer puis devenir bons et rester bons et rester aussi avec nous.
Est-ce qu'il va rester du monde dans le stade quand ils vont avoir fini leur développement?
Il n'y a rien qui dit que ça va prendre 6 ans. Je te parle des corps arrière qui sont très bons maintenant, mais qui sont établis depuis déjà 3-4 ans.
Avez-vous espoir que ça débloque rapidement, donc avec l'un de ces corps arrière-là? Penses-tu qu'il y en a un de la gang qui va être compétitif, Patrick?
Oui. Oui, ouais, tout à fait.
Vous êtes confiant. Parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de doutes par rapport à celui qui a coûté très cher. Puis c'est correct, c'était cette bonne guerre d'aller chercher Johnny Manziel. Il y avait une curiosité.
Est-ce qu'il y a encore du doute par rapport au prix payé, ce qui est une chose, ou est-ce qu'il y a encore du doute par rapport à lui? Parce que si on regarde ses derniers matchs...
Il y a du doute par rapport à lui. En fait, par rapport à son éthique de travail. Dans le fond, on a l'impression que les gars... partant en vacances. Et Mike Sherman l'a dit, ça n'est pas caché. C'est celui qui va travailler plus fort dans l'entre-saison. Mais on le sait pas, c'est qui. Puis il y a des doutes quant à sa capacité, parce qu'il a déjà prouvé que c'était pas le premier arrivé puis le dernier parti au bureau. Fait que donc, on s'en va dans l'entre-saison avec l'espoir qu'ils veulent travailler.
Et comme Mike l'a dit, Brett Favre n'était pas le premier arrivé ou le dernier parti à Green Bay non plus.
Mais comparer Brett Favre à Johnny Manziel, Patrick, honnêtement...
Non, mais je compare des perceptions d'éthique de travail.
Oui.
Je compare pas deux corps arrière. Mais la perception était que Brett Favre ne travaillait pas.
Okay. Toi, t'es convaincu que Manziel a la bonne éthique de travail?
Moi, je suis convaincu que Manziel a encore à s'améliorer. Je suis convaincu que toutes les autres carrières ont encore à s'améliorer par rapport à leur éthique de travail. Ils n'ont que 25 ans, mais je sais qu'ils comprennent qu'ils doivent absolument faire ça pendant l'entre-saison pour être prêts pour la saison prochaine. Ils comprennent exactement ce qui est sur la table, tout à fait.
OK, bien, je suis content qu'ils le comprennent, mais il reste que si le passé est garant de l'avenir, on va allumer un lampion, là. Dans ce sens qu'on a raison d'avoir des doutes jusqu'à temps qu'ils nous prouvent le contraire.
Ben, c'est normal. On est en train de parler d'un potentiel.
Oui, tout à fait. Donc, Andrew Wettenhall et M. Bob Wettenhall sont pas trop stressés. Quand même, ils ont poussé. Il y a eu un gros lobbying pour qu'on agrandisse pas l'amphithéâtre, mais le stade Percival Molson il y a des années pour empêcher que les Alouettes continuent de perdre de l'argent. Ça n'a pas été un défi qu'on a été capable de relever avec une équipe assez attirante pour le remplir, ce stade-là. On annonce une reconfiguration du stade pour éliminer des places qui ne sont pas occupées. On n'a pas l'impression que ça avance. Et que donc, est-ce que messieurs Wettenhall sont essoufflés de subir des pertes monétaires ou sont encore très à l'aise et patients dans le processus?
Non, on est tous tannés de subir des pertes monétaires, eux les premiers, mais juste pour effectuer une petite correction, on n'élimine pas des sièges. Ce qu'on fait, c'est qu'on relocalise et dans les sections qui sont déjà vides mais qui vont l'être complètement, on va tout simplement fermer les sections, mettre en fait de la publicité. On va recouvrir les sections juste pour condenser le stade.
En attendant qu'on puisse les vendre à nouveau.
Fait,
OK, c'est temporaire.
Oui, tout à fait. Il n'y a rien de permanent là-dedans.
OK.
C'est tout à fait temporaire. Et l'idée est de relocaliser pour reconcentrer nos partisans. Toute notre stratégie de relocalisation, je pense, carbure à peu près à 90-92% pour l'instant. Les gens sont très réceptifs. Pour rehausser l'atmosphère puis reconcentrer les gens. Bon, ceci étant dit... Dans le même exercice, ça nous permet aussi de libérer, encore une fois, avec des billets qui ne sont pas vendus pour l'instant, de libérer des billets qui étaient autrefois un petit peu plus chers et de baisser le prix après une étude de sensibilité de prix qu'on a fait. On pense qu'on vient d'éliminer une barrière à l'entrée avec la mise en marché de ces billets-là. Fait qu'on va avoir à peu près 9000 billets qui vont être en dessous de 60$. Mais tout ça rentre non pas dans un contexte de coupure financière, parce qu'on est en train de tout manipuler des sièges qui sont invendus à ce stade-ci de toute façon.
Mike Sherman, c'est sûr qu'il revient diriger l'an prochain. Il n'y a pas de doute. Sa présence à la conférence de presse, est-elle une garantie qu'il est de retour la saison prochaine?
Oui.
Oui, vraiment? Je ne sais pas si j'ai bien compris dans la conférence de presse, quand il a été question de Mark Trestman, est-ce que j'ai bien entendu qu'on considérait peut-être l'amener dans le personnel d'entraîneur ou j'ai pas bien compris?
Non, la question a insinué qu'on pourrait peut-être considérer. Ce que Mike a répondu, c'est qu'il a parlé à Mark suite à l'annonce. tout simplement entre coachs pour lui souhaiter bonne chance. Il se connaissait un petit peu déjà de la NFL.
Okay.
Ça s'en est tenu à ça. Il a complimenté Mark sur ses qualités de coach, mais c'est tout.
Très bien. L'an passé, quand vous avez remercié Jacques Chapdelaine, qui est entraîneur pendant un court laps de temps des Alouettes de Montréal, vous avez un peu justifié cette décision-là par le fait que vous avez sondé les joueurs dans l'équipe. Alors là, je me disais, si on a encore sondé les joueurs dans l'équipe, Mike Sherman ne reviendra pas l'an prochain. Donc, vous n'avez pas sondé les joueurs?
Pourquoi tu dis ça?
Mais parce que les informations qu'on a sont à l'effet que l'homme le moins populaire dans le vestiaire, c'est l'entraîneur-chef, Mike Sherman.
Ça, c'est unanime.
Ben, ça semble être l'opinion de beaucoup de gens, en tout cas, certainement. Là. Je veux dire, je ne vais pas te nommer les joueurs un par un qui le pensent, mais il reste que, en tout cas, ça n'en a pas pris ben. Est-ce que c'était unanime pour Jacques Chapdelaine?
Oui.
C'était unanime. Tout le monde voulait que ça claque.
Oui.
Ça veut dire que là, il y en a une couple qui veulent que Mike Sherman reste.
On n'est pas rentré dans des entrevues individuelles, sauf que ce qu'on est capable de voir, c'est la différence, la grande différence d'attitude que les joueurs ont en fin de saison, dans des matchs qui veulent, à toute fin pratique, rien dire, comparativement à des matchs qui voulaient dire quelque chose alors que Jacques est encore là. Mais l'idée n'est pas de parler de Jacques, puis de comparer de Jacques, puis Mike. L'équipe a quand même progressé, l'équipe s'est tenue. Je pense que c'est même Martin Bédard qui dit que c'est la première fois en 15 ans, qu'il disait à dimanche dernier, c'est la première fois en 15 ans que j'ai pas vu de chicane entre les joueurs dans la chambre. Les joueurs sont unifiés. Des fois, tu as des dynamiques avec des entraîneurs où les joueurs s'unifient contre le coach. Je parlais des Canadiens en 86, Bob Gainey l'a souvent répété d'ailleurs. Je pense pas que ça se joue nécessairement maintenant, mais les joueurs sont beaucoup plus unifiés. Et tu as une culture de d'imputabilité qui est là et qui, moi, je crois, va nous permettre de faire un pont à l'année prochaine.
En tout cas, si cette psychologie inversée-là a des chances de fonctionner, vous aviez le bon gars si Jacques Chapdelaine avait créé l'unanimité contre lui. Non, mais, tu sais, je veux dire, à penser de cette façon-là, on peut s'en aller dans bien des directions, là, mais... Bref, c'est une boutade un peu, là. Mais les Alouettes sont difficiles à aimer, en tout cas, ces temps-ci. Puis c'est pas parce qu'on veut pas les aimer, c'est pas parce qu'on continue pas de regarder, c'est pas parce qu'on continue pas d'être curieux. Mais je crains, parce que nous-mêmes, on le ressent parfois, qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe devant ce qui ressemble année après année, un jour de la marmotte. Je regardais mes notes pour l'entrevue d'aujourd'hui, comparativement à l'entrevue de l'an passé et de l'année d'avant. Et il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont les mêmes. Outre le fait que, bon, là, cette année, on a les mêmes personnages là, pour une deuxième année de suite, mais outre ça, les problèmes ou les points d'interrogation demeurent les mêmes. Alors, je sais que comme président, t'aimerais ça que ça aille plus vite. Pensais-tu que ça allait être si difficile?
Non, je pensais pas que ça allait être si difficile, mais c'était pas parce que j'avais mal évalué. Je pense que collectivement, on avait mal apprécié le momentum négatif dans lequel on était. Qui est autant en termes d'attraction ou d'attention de la part du public, que ça soit même au niveau football. Puis par monotone négatif, on peut parler d'âge d'équipe, d'âge moyenne dans l'équipe, de profondeur, pas nécessairement sur le terrain, mais de profondeur sur notre liste de négociations qui sont, dans le fond, des joueurs qu'on a dépistés aux États-Unis. Tout ça, tout cet héritage-là, il a fallu tout refaire puis tout rebâtir aussi. Et c'est ça qui prend du temps. Puis qui prend du temps... non seulement à faire, mais qui prend du temps à se manifester par la suite sur le terrain aussi. Mais on est dans un point de tournant, là.
Patrick, on espère que ça va tourner enfin, parce que, dans le fond, c'est ça qu'on souhaite. On souhaite que notre équipe de football fasse vivre de bons moments à ceux qui s'intéressent à ce produit-là. Alors, on a juste à vous souhaiter et à se souhaiter la meilleure des chances pour l'entre-saison. Et on se reparle bientôt.
Merci, Mario. Merci tout le monde.
Patrick Boivin, donc, le président des Alouettes de Montréal. C'est ce qui complète cette édition écourtée des amateurs de sport. Dans quelques instants, c'est l'avant-match avec Martin McGuire et Danny Dubé, les Sabres de Buffalo qui sont en ville.